Chapitre 6. Il pleuvait. Madame Martin Bellem voyait confusément, à travers les glaces ruisselantes de son coupé, la multitude des parapluies cheminer comme des tortues noires sous les eaux du ciel. Elle songeait. Ses pensées étaient grises et indistinctes comme les aspects des rues et des places que la pluie effaçait. Elle ne savait plus pourquoi l'idée lui était venue d'aller passer un mois chez Miss Bell. Et vraiment, elle ne l'avait jamais bien su. C'était comme une source d'abord cachée par quelques brins de plantain qui maintenant formait le courant d'une eau profonde et rapide. Elle se rappelait bien que le mardi soir, à dîner, elle avait dit tout à coup qu'elle voulait partir, mais elle ne remontait pas au premier filet de ce désir. Ce n'était pas l'envie d'agir avec Robert le Ménil comme il agissait avec elle. Sans doute elle trouvait excellent d'aller se promener au Castine tandis qu'il allait chasser le renard. Cela lui paraissait d'une agréable symétrie. Robert, qui était toujours très content de la retrouver, ne la retrouverait pas à son retour. Elle jugeait bon de lui donner cette juste contrariété. Mais elle n'y avait pas songé tout d'abord. Et depuis, elle n'y songeait guère, et vraiment, elle ne partait pas pour le plaisir de lui faire de la peine et dans l'espièglerie d'une petite vengeance. Elle gardait contre lui une pensée moins piquante, plus sourde et plus dure. Surtout, elle ne voulait pas le revoir de sitôt. Sans que leur liaison fût en rien rompue, il était devenu pour elle un étranger. Il lui apparaissait un homme comme les autres, mieux que la plupart des autres, très bien d'aspect, de manière, d'un caractère estimable et qui ne lui déplaisait pas, mais ne l'occupait pas beaucoup. Tout à coup, il était sorti de sa vie. Elle ne se rappelait pas volontiers combien il avait été mêlé. L'idée d'être à lui la choquait, lui paraissait une inconvenance. La prévision qu'ils se retrouveraient ensemble dans le petit appartement de la rue Spontini lui était assez pénible pour qu'elle l'écartât tout de suite. Elle aimait mieux croire qu'un événement imprévu, nécessaire, empêcherait leur réunion. La fin du monde, par exemple. Monsieur Lagrange, de l'Académie des sciences, lui avait parlé la veille chez Madame de Merlen d'une comète qui, venue de l'abîme céleste, rencontrerait peut-être un jour la terre, l'envelopperait de sa chevelure flamboyante, la brûlerait de son haleine, donnerait à respirer aux animaux et aux plantes des poisons inconnus, et ferait mourir tous les hommes dans un rire frénétique ou dans une morne stupeur. C'est cela, ou quelque chose de ce genre, qu'il lui fallait pour le mois prochain. Il n'était donc pas inexplicable qu'elle eût voulu partir. Mais qu'à son désir de s'envoler se mêla une joie vague, qu'elle fût par avance sous le charme de ce qu'elle allait trouver, elle n'y savait point de raison. La voiture la mit au coin de la petite rue de la Chaise. C'est là, sous le toit d'une haute maison, au long du balcon, derrière 5 fenêtres chauffées le matin par le soleil, que dans un étroit logement, très propre, demeurait Madame Marnay depuis la mort de son mari. La comtesse Martin était venue la voir à son jour. Elle trouva dans le salon modeste et reluisant M. Lagrange, sommeillant dans un fauteuil vis-à-vis de la bonne dame, douce et tranquille, sous sa couronne de cheveux blancs. Ce vieux savant mondain lui était resté fidèle. C'est lui qui, le lendemain des obsèques de Marmet, avait apporté à la malheureuse veuve le discours empoisonné de Schmoll, et qui, pensant la consoler, l'avait vue suffoquer de colère et de douleur. Elle s'était évanouie dans ses bras. Madame Marmet trouvait qu'il manquait de jugement. C'était son meilleur ami. Ils dînaient souvent ensemble aux tables riches. Madame Martin, fine et ferme dans sa veste de zibeline entr'ouverte sur un flot de dentelle, réveilla de l'éclat charmant de ses yeux gris le bonhomme qui était sensible à la grâce des femmes. Il lui avait dit, la veille, chez Madame de Morlaine, comment viendrait la fin du monde. Il lui demanda s'il n'avait pas eu peur en revoyant la nuit ces tableaux de la terre dévorée par les flammes ou morte de froid, blanche comme la lune. Tandis qu'il lui parlait avec une galanterie affectée, elle regardait la bibliothèque d'acajou qui occupait tout le panneau du salon opposé aux fenêtres. Il n'y restait guère de livres, mais sur la tablette inférieure s'allongeait un squelette avec ses armes. On s'étonnait de voir loger chez cette bonne dame ce guerrier étrusque gardant attaché à son crâne un casque de bronze vert et portant sur sa poitrine disloquée des lames rongées de sa cuirasse. Il dormait, épars et farouche, parmi des boîtes de bonbons, des vases de porcelaine dorée, des saintes vierges en stuc et de menues boiseries découpées, souvenirs de lucerne ou du rigui. Madame Marmet, dans la gêne de son veuvage, avait vendu les livres de travail laissés par son mari. De tous les objets anciens recueillis par l'archéologue, elle n'avait conservé que cet étrusque. Oh, ce n'est pas qu'on eût essayé de l'en débarrasser. Les vieux confrères de Marmet lui en avaient trouvé le passement. Paul Vance avait obtenu de l'administration des musées qu'on l'acheta pour le Louvre. Mais la bonne veuve n'avait pas voulu s'en séparer. Il lui semblait qu'avec ce guerrier au casque de bronze vert, ceint d'un léger feuillage d'or, elle eut perdu le nom qu'elle portait dignement et cessait d'être la veuve de Louis Marmet de l'Académie des inscriptions. « Rassurez-vous, madame, une comète ne viendra pas de sitôt heurter la terre. De telles rencontres sont extrêmement peu probables. » Madame Martin répondit qu'elle ne voyait aucun inconvénient sérieux à ce que la terre et l'humanité fussent anéanties tout de suite. Le vieux Lagrange se récria avec une sincérité profonde. Il lui importait grandement que le cataclysme fût retardé. Elle le regarda. Son crâne aride nourrissait à peine quelques cheveux teints en noir. Ses paupières traînaient comme des loques sur ses yeux encore souriants. De longues peaux pendaient sur sa face jaune et l'on devinait sous les habits un corps desséché. Elle songea « Il aime la vie ». Madame Marmet non plus ne voulait pas que la fin du monde fût si proche. « Monsieur Lagrange, dit Madame Martin, vous habitez, n'est-ce pas, une jolie petite maison dont les fenêtres tapissées de glycine regardent le jardin des plantes. Il me semble que c'est une joie de vivre dans ce jardin qui me fait penser aux arches de Noé de mon enfance et au paradis terrestre des vieilles Bibles. » Mais il n'était pas charmé. La maison était petite, mal aménagée, infestée de rats. Elle reconnut qu'on était bien nulle part, qu'il y avait partout des rats, ou réels ou symboliques, des légions de petits êtres qui nous tourmentaient. Pourtant, elle aimait le jardin des plantes. Elle voulait toujours y aller et n'y allait jamais. Il y avait aussi le muséum où elle n'était pas entrée et qu'elle était curieuse de visiter. Souriant, heureux, il s'offrit à lui en faire les honneurs. C'était sa maison. Il lui montrerait les bolides. On en conservait là de superbes. Elle ne savait pas du tout ce que c'était qu'un bolide. Mais elle se rappela qu'on lui avait dit qu'on voyait au muséum des os de rennes travaillés par les premiers hommes, des plaques d'ivoire sur lesquelles étaient gravés des animaux dont la race est depuis longtemps perdue. Elle demanda si c'était vrai. Lagrange ne souriait plus. Il répondit avec une indifférence maussade que ces objets conservaient un de ses confrères. « Ah, dit Madame Martin, ce n'est pas votre vitrine. » Elle s'apercevait que les savants ne sont pas curieux et qu'il est indiscret de les interroger sur ce qui n'est pas dans leur vitrine. Il est vrai que Lagrange avait fait sa fortune scientifique des pierres tombées du ciel. Cela l'avait amené à considérer les comètes. Mais il était sage. Depuis 20 ans, il ne s'occupait plus guère que de dîner en ville. Quand il fut parti, la comtesse Martin dit à madame Marnay ce qu'elle voulait d'elle. « Je vais la semaine prochaine à Fiesole, chez Miss Bell, et vous venez avec moi. » La bonne madame Marnay, le front placide sur des yeux furteurs, garda un moment le silence, refusa mollement, se fit prier et consentit. Chapitre 7. Le rapide de Marseille était formé sur le quai où couraient les facteurs et roulaient les camions dans la fumée et le bruit, sous la clarté livide qui tombait des vitrages. Devant les portières ouvertes, les voyageurs en longs manteaux allaient et venaient. À l'extrémité de la galerie, aveuglée de suie et de poussière, apparaissait, comme au bout d'une lunette, un petit arc de ciel, grand comme la main, l'infini du voyage. La comtesse Martin et la bonne madame Marmet étaient déjà dans leur coupé, et sous le filet chargé de sacs, les journaux jetés près d'elles sur les coussins. Choulette ne venait pas, et madame Martin ne l'attendait plus. Il avait pourtant promis de se trouver à la gare. Il avait pris ses arrangements pour le départ et reçu de son éditeur le prix des blancs 10. Paul Vance l'avait amené un soir à l'hôtel du Quai de Billy. Il s'était montré doux, poli, plein de gaieté spirituelle et de joie naïve. Elle se promettait depuis lors quelque plaisir à voyager avec un homme de génie et si original, d'une laideur pittoresque, d'une folie amusante, vieil enfant perdu, plein de vie sincère et d'innocence. Les portières se fermaient, elle ne l'attendait plus. Aussi n'avait-elle pas dû compter sur cette âme impulsive et vagabonde. Et au moment où la machine commençait à pousser des souffles rauques, madame Marmet, qui regardait par la portière, dit tranquillement « Oh, je crois que voici Monsieur Choulette. » Il longeait le quai, boitant d'une jambe, le chapeau en arrière sur son crâne bossué, la barbe inculte et traînant un vieux sac de tapisserie. Il était presque terrible, et malgré ses 50 ans, avait l'air jeune, tant ses yeux bleus étaient clairs et luisaient, tant son visage jauni et creusé avait gardé d'audace ingénue, tant jaillissait de ce vieil homme ruineux l'éternelle adolescence du poète et de l'artiste. En le voyant, Thérèse regretta de s'être donné un compagnon si étrange. Il allait, jetant dans chaque voiture un regard brusque qui devenait peu à peu mauvais et méfiant. Mais quand, arrivé au coupé des deux dames, il reconnut madame Martin, il sourit si joliment et lui donna le bonjour d'une voix si caressante qu'il ne lui restait plus rien du farouche vagabond errant sur le quai, rien que la très vieille valise de tapisserie qu'il tirait par l'aisance à demi rompue. Il la plaça dans le filet avec un soin minutieux, parmi les sacs corrects enveloppés de toile grise, où elle fit une tache éclatante et sordide. On vit alors qu'elle était semée de fleurs jaunes sur un fond couleur de sang. Très à son aise, il fit compliment à madame Martin des pèlerines de son carré carmélite. « Excusez-moi, mesdames, ajouta-t-il, j'ai craint d'être en retard. Je suis allé entendre ce matin la messe de 6 heures à Saint-Séverin, ma paroisse, dans la chapelle de la Vierge, sous ces jolis piliers absurdes qui montent au ciel en devise de Mirliton, comme nous, pauvres pécheurs que nous sommes. » « Alors, lui dit madame Martin, vous êtes pieux aujourd'hui ? » Et elle lui demanda s'il emportait le cordon de l'ordre qu'il fondait. Il prit un air grave et contristé. « Bon, je crois bien, madame, que M. Paul Vance nous ait fait à ce sujet beaucoup de mensonges absurdes. Il m'est revenu qu'il allait seulement dans les salons, que mon cordon est un cordon de sonnette. Et de quelle sonnette ? Je serais désolé qu'on puisse laisser prendre un moment à des inventions si misérables. Mon cordon, madame, est un cordon symbolique. Il est représenté par un simple fil qu'on porte sous les vêtements après qu'un pauvre l'a touché, en signe que la pauvreté est sainte et qu'elle sauvera le monde. Il y a de bien qu'en elle. Et depuis que j'ai reçu le prix des Blandis, je me sens injuste et dur. Il est bon de savoir que j'ai mis dans mon sac quelques-unes de ces cordelettes mystiques. Et, montrant du doigt l'horrible tapisserie couleur de sang rouillé, j'y ai mis aussi une hostie qu'un mauvais prêtre m'a donnée, les œuvres de Monsieur de Maistre, des chemises et diverses autres choses. Madame Martin leva les yeux un peu effarés. Mais la bonne Madame Marmet gardait sa placidité coutumière. Tandis que le train roulait à travers les laideurs de la banlieue, sur cette frange noire qui borde tristement la ville, Choulette tira de sa poche un vieux portefeuille dans lequel il se mit à fouiller. Le scribe, caché sous le vagabond, se révélait. Choulette était paperassier sans vouloir le paraître. Il s'assura qu'il n'avait perdu ni les bouts de papier sur lesquels il notait au café ses idées de poème, ni la douzaine de lettres flatteuses que, sali, taché et coupé à tous les plis, il portait sur lui constamment, prêt à les lire à des compagnons de rencontre la nuit sous les becs de gaz. Ayant reconnu qu'il ne lui manquait rien, il ôta du portefeuille une lettre pliée dans une enveloppe ouverte. Longtemps, il l'agita dans sa main avec un air d'impudence mystérieuse, puis il la tendit à la comtesse Martin. C'était une lettre de présentation que la marquise de Rieux lui avait donnée pour une princesse de la maison de France, une très proche parente du comte de Chambord, qui, veuve et vieille, vivait retirée aux portes de Florence. Ayant joui de l'effet qu'il pensait produire, il dit qu'il verrait peut-être cette princesse, que c'était une bonne personne et pieuse. Une vraie grande dame, ajouta-t-il, et qui ne montre pas sa magnificence par des robes et des chapeaux. Elle porte ses chemises 6 semaines, et quelquefois davantage. Les gentilshommes de sa suite lui ont vu des bas blancs, très sales, qui lui tombaient sur les talons. Les vertus des grandes reines d'Espagne revivent en elle. Oh, ces bas sales, quelle gloire véritable! Il reprit la lettre et la referma dans son portefeuille. Puis, s'étant armé d'un couteau à manche de corne, il attaqua de la pointe une figure à peine ébauchée dans la poignée de son bâton. Cependant, il s'en donnait lui-même des louanges. Bon, je suis habile dans tous les arts des mendiants et des vagabonds. Je sais ouvrir les serrures avec un clou et sculpter le bois avec un mauvais eustache. La tête commençait à paraître. C'était un maigre visage de femme qui pleurait. Choulette y voulait exprimer la misère humaine, non point simple et touchante, telle que l'avaient pu sentir les hommes d'autrefois dans un monde mêlé de rudesse et de bonté, mais hideuse et fardée. À cet état de laideur parfaite où l'emportaient les bourgeois libres penseurs et les militaires patriotes issus de la Révolution française. Selon lui, le régime actuel n'était qu'hypocrisie et brutalité. Le militarisme lui faisait horreur. La caserne est une invention hideuse des temps modernes. Elle ne remonte qu'au XVIIe siècle. Avant, on n'avait que le bon corps de garde où les soudards jouaient aux cartes et faisaient des comptes de Merlusine. Louis XIV est un précurseur de la Convention et de Bonaparte. Mais le mal a atteint sa plénitude depuis l'institution monstrueuse du service pour tous. Après avoir fait une obligation aux hommes de tuer, c'est la honte des empereurs et des républiques, le crime des crimes. Aux âges qu'on dit barbares, les villes et les princes confiaient leur défense à des mercenaires qui faisaient la guerre en gens avisés et prudents. Il n'y avait parfois que 5 ou 6 morts dans une grande bataille. Et quand les chevaliers allaient en guerre, du moins n'y étaient-ils point forcés, ils se faisaient tuer pour leur plaisir. Oh, sans doute étaient-ils bons qu'à cela. Mais personne au temps de Saint-Louis n'aurait eu l'idée d'envoyer à la bataille un homme de savoir et d'entendement. Et l'on n'arrachait pas non plus le laboureur à la glaive pour le mener à l'est. Et maintenant, on fait un devoir à un pauvre paysan d'être soldat. Oh, l'exil de la maison, dont le toit fume dans le silence d'or et du soir, des grasses prairies où paissent les bœufs, des champs, des bois maternels. On lui enseigne, dans la cour d'une vilaine caserne, à tuer régulièrement des hommes. On le menace, on l'injurie, on le met en prison. On lui dit que c'est un honneur, et s'il ne veut pas s'honorer de cette manière, on le fusille. Il obéit parce qu'il est sujet à la peur, et de tous les animaux domestiques, le plus doux, le plus riant, le plus docile. Nous sommes militaires en France et nous sommes citoyens. Autre motif d'orgueil que d'être citoyen. Cela consiste pour les pauvres à soutenir et à conserver les riches dans leur puissance et leur oisiveté. Ils y doivent travailler devant la majestueuse égalité des lois, qui interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. C'est un des bienfaits de la Révolution. Mais comme cette Révolution a été faite par des fous et des imbéciles, au profit des acquéreurs de biens nationaux, et qu'elle n'aboutit en somme qu'à l'enrichissement des paysans madrés et des bourgeois usuriers, elle éleva, sous le nom d'égalité, l'empire de la richesse. Elle a livré la France aux hommes d'argent, qui depuis 100 ans la dévorent. Ils y sont maîtres et seigneurs. Le gouvernement apparent, composé de pauvres diables piteux, miteux, marmiteux, calamiteux, est au gage des financiers. Depuis 100 ans, dans ce pays empoisonné, quiconque aime les pauvres est tenu pour traître à la société. Et l'on est un homme dangereux quand on dit qu'il est des misérables. On a même fait des lois contre l'indignation et la pitié. Et ce que je dis ici ne pourrait pas s'imprimer. Et Choulette s'animait, agitait son couteau, tandis que sous le soleil frileux, passaient les champs de terre brune, les bouquets violets des arbres dépouillés par l'hiver et les rideaux de peupliers au bord des rivières argentées. Il regarda avec attendrissement la figure sculptée sur son bâton. « Te voilà, lui dit-il, pauvre humanité, maigre et pleurante, stupide de honte et de misère, telle que t'ont fait tes maîtres, le soldat et le riche. » La bonne Madame Marmet, qui avait un neveu capitaine d'artillerie, jeune homme charmant, attaché à sa profession, était choquée de la violence avec laquelle Choulette attaquait l'armée. Madame Martin n'y voyait qu'une fantaisie amusante. Les idées de Choulette ne l'effrayaient pas. Elle n'avait peur de rien. Mais elle les trouvait un peu absurdes. Elle ne pensait point que le passé eût jamais été meilleur que le présent. « Mais je crois, monsieur Choulette, que les hommes ont été de tout temps ce qu'ils sont aujourd'hui, égoïstes, violents, avares et sans pitié. Je crois que les lois et les mœurs ont toujours été dures et cruelles aux malheureux. » Entre La Roche et Dijon, ils déjeunèrent dans le wagon-restaurant, et ils laissèrent Choulette seule avec sa pipe, son verre de bénédictine et son âme irritée. Dans le coupé, Madame Marmet parla avec une tendresse paisible du mari qu'elle avait perdu. Il l'avait épousée par amour. Il lui faisait des vers admirables qu'elle avait gardés et qu'elle ne montrait à personne. Il était très vif et très gai. Bon, on ne l'eût pas cru à le voir plus tard, fatigué par le travail, affaibli par la maladie. Il avait étudié jusqu'au dernier moment. Souffrant d'une hypertrophie du cœur, il ne pouvait se coucher et passer la nuit dans son fauteuil avec ses livres sur une tablette. 2 heures avant sa mort, il essaya de lire encore. Il était affectueux et bon. Dans sa souffrance, il garda toute sa douceur. Madame Martin, faute de trouver mieux, lui dit « Vous avez eu de longues années heureuses, vous en gardez le souvenir. C'est encore une part de bonheur en ce monde. » Mais la bonne dame Marmet soupira, un nuage passa sur son front tranquille. « Oui, dit-elle, Louis fut le meilleur des hommes et le meilleur des maris. » Pourtant, il m'a rendue bien malheureuse, Il n'avait qu'un seul défaut, mais j'en ai cruellement souffert. Il était jaloux. Lui, si bon, si tendre, si généreux. Cette horrible passion le rendait injuste, tyrannique, violent. Oh, je vous assure bien que ma conduite ne prêtait pas aux soupçons. Je n'étais pas coquette, mais j'étais jeune, fraîche. Je passais pour presque jolie. Cela suffisait. Il m'empêchait de sortir seul, me défendait de recevoir des visites en son absence. Et quand nous étions au bal ensemble, oh, je tremblais d'avance des scènes qu'il me ferait en voiture. Et la bonne Madame Marmet ajouta en soupirant, « C'est vrai que j'aimais la danse, mais il a fallu renoncer, il en souffrait trop. » La comtesse Martin laissait paraître sa surprise. Elle s'était toujours figurée Marmet comme un vieux monsieur, timide et absorbé, un peu ridicule entre sa femme grasse, blanche, si douce, et le squelette coiffé de bronze et d'or de son guerrier étrusque. Mais l'excellente veuve lui confia qu'à 55 ans, quand elle en avait 53, Louis restait jaloux comme au premier jour. Et Thérèse songea que Robert ne l'avait jamais tourmenté de sa jalousie. Était-ce de sa part une preuve de tact et de bon goût, une marque de confiance, ou ne l'aimait-il pas assez pour la faire souffrir? Elle ne le savait pas, et elle n'avait pas le cœur attaché de le savoir. Il aurait fallu fouiller dans des tiroirs de son âme, qu'elle ne voulait pas ouvrir. Elle murmura, sans y prendre garde, « Oh, nous voulons être aimés, et quand on nous aime, on nous tourmente ou on nous ennuie. » La journée s'acheva en lecture et en rêverie. Choulette n'avait pas reparu. La nuit couvrit peu à peu de ses cendres grises les mûriers du Dauphiné. Madame Marmet s'endormit d'un sommeil paisible, reposant sur elle-même comme sur un amas d'oreillers. Thérèse la regarda et songea. C'est vrai qu'elle est heureuse puisqu'elle aime à se rappeler. La tristesse de la nuit entra dans le cœur. Et lorsque la lune se leva sur les champs d'oliviers, voyant passer ses douces lignes de plaines et de coteaux et couler des ombres bleues, Thérèse, dans ce paysage où tout parlait de paix et d'oubli, et rien ne lui parlait d'elle, regretta la Seine, l'Arc de Triomphe, et ses rayons d'avenue, les allées du bois, ou du moins les arbres et les pierres la connaissaient. Soudain, avec une brusquerie sournoise, Choulette se jeta dans le wagon. Armée de son bâton noueux, le visage, la tête tout enveloppée de lainage rouge et le peau farouche, oh, il lui fit presque peur. C'est ce qu'il voulait. Ses attitudes violentes et sa mise sauvage étaient toujours étudiées. Sans cesse occupé d'effets puérils et bizarres, il se plaisait à paraître effrayant. Prompt lui-même à l'épouvante, il était content d'inspirer les terreurs qu'il éprouvait. Un moment auparavant, comme il fumait sa pipe seul au fond du couloir, il avait ressenti, en voyant la lune courir dans les nuées sur la Camargue, une de ces peurs sans cause, une de ces peurs d'enfant, qui bouleversait son âme imagée et légère. Et il était venu se rassurer auprès de la comtesse Martin. Arles, dit-il, connaissez-vous Arles? Oh, c'est la pure beauté! J'ai vu dans le cloître de Saint-Trophime des colombes se poser sur les épaules des statues, et j'ai vu les petits lézards gris se chauffer au soleil sur les sarcophages des aliscans. Les tombeaux sont maintenant rangés des deux côtés du chemin qui mène à l'église. Elles sont en forme de cuve et servent la nuit de lit aux malheureux. Un soir, me promenant avec Paul Arène, je rencontrai une bonne vieille qui étendait des herbes sèches dans la tombe d'une vierge antique, expirée le jour de ses noces. Nous lui souhaitâmes une bonne nuit. Et elle répondit, « Dieu vous entende, mais un sort mauvais veut que cette cuve soit ouverte du côté du Mistral. Oh, si la fente se trouvait dans l'autre partie, je serais couché comme la reine Jeanne. » Thérèse ne répondit rien. Elle était assoupie. Et Choulette frissonna dans le froid de la nuit, ayant peur de la mort. Chapitre 8. Dans sa charrette anglaise qu'elle conduisait elle-même, Miss Bell avait amené de la gare de Florence, par les rampes de la colline, la comtesse Martin Bellem et Madame Marmet à sa maison de Fiesole et qui, rose et couronnée d'un bandeau de balustre, regardait la ville incomparable. La femme de chambre suivait avec les bagages. Choulette, logée par les soins de Miss Bell chez la veuve d'un sacristain dans l'ombre de la cathédrale de Fiesole, n'était attendue que pour le dîner. Laide et gentille, les cheveux courts, en veste, une chemise d'homme sur sa poitrine de garçon, presque gracieuse, avec très peu de hanches, la poétesse faisait à ses amies françaises les honneurs du logis qui reflétaient les délicatesses ardentes de son goût. Au mur du salon, des vierges siennoises, pâles, les mains longues, régnaient paisiblement au milieu des anges, des patriarches et des saints, dans les belles architectures dorées des triptyques. Sur un socle se tenait debout une madeleine, vêtue de ses cheveux, effrayante de maigreur et de vieillesse. Quelques mendiantes de la route de Pistoia, brûlées par les soleils et les neiges, qu'avait copié dans l'argile avec une fidélité horrible et touchante un précurseur inconnu de Donatello. Et partout les armoiries de Miss Bell, des cloches et des clochettes. Les plus grosses élevaient leurs monts de bronze aux angles de la chambre, d'autres, se touchant, formaient leurs chaînes au pied des murs. De plus petites couraient tout le long des corniches. Il y en avait sur le poêle, sur les coffres et sur les bahuts. Les vitrines étaient remplies de cloches d'argent et de vermeil. Grosses cloches de bronze marquées du style florentin, sonnettes de la Renaissance faites d'une dame portant un large vertugadin, sonnettes des trépassés décorées de larmes et d'ossements, sonnettes ajourées couvertes d'animaux symboliques et de feuillages qui sonnaient dans les églises au temps de Saint-Louis, sonnettes de table du XVIIe siècle ayant une statuette pour poignet, clochettes plates et claires des vaches des vallées du Rutli, cloches hindoues qu'on fait résonner mollement avec une corne de cerf, cloches chinoises en forme de cylindre. Elles étaient venues là, de tous les pays et de tous les temps, à l'appel magique de cette petite Miss Bell. « Vous regardez mes armes parlantes, » dit-elle à Madame Martin. « Oh, je crois que toutes ces Miss Bell se plaisent ici. » Et je ne serais pas trop étonnée si un jour elles se mettaient à chanter ensemble. Mais il ne faut pas les admirer toutes également. Il faut garder les louanges les plus pures et les plus ferventes pour celles-ci. Et frappant du doigt une cloche sombre et nue, qui rendit un son grêle, « Celle-ci, reprit-elle, est une sainte villageoise du Ve siècle. C'est une fille spirituelle de Saint-Paulin de Nôles qui le premier fit chanter le ciel sur nos têtes. Elle est d'un métal rare qu'on a nommé airain de Campanie. Bientôt je vous montrerai près d'elle une Florentine de toute gentillesse, la reine des cloches. Elle va venir, mais je vous ennuie, darling, avec ses babioles. Et j'ennuie aussi la bonne Madame Marmet, c'est mal. » Elle les conduisit à leur chambre. Une heure après, Madame Martin, reposée, fraîche, en déshabillé de foulard et de dentelle, descendit sur la terrasse où l'attendait Miss Bell. L'air humide, tiédi par un soleil encore faible et déjà généreux, soufflait l'inquiète douceur du printemps. Thérèse, accoudée à la balustrade, baignait ses yeux dans la lumière. À ses pieds, les cyprès levaient leurs quenouilles noires et les oliviers moutonnaient sur les pentes. Au creux de la vallée, Florence étendait ses dômes, ses tours et la multitude de ses toits rouges, à travers laquelle l'Arno laissait deviner à peine sa ligne ondoyante. Au-delà, bleuissaient les collines. Elle cherchait à reconnaître les jardins Boboli, où elle s'était promenée dans un premier voyage. les cassines qu'elle n'aimait guère, le palais Pitti, Sainte-Marie de la Fleur. Puis l'infini charme du ciel l'attira. Elle suivait dans les nuages les formes qui s'écoulent. Après un long silence, Viviane Bell étendit la main vers l'horizon. « Darling, je ne puis pas dire, je ne sais pas dire. Mais regardez, darling, regardez encore. Ce que vous voyez est unique au monde. Nulle part la nature n'est à ce point subtile, élégante et fine. Le dieu qui fit les collines de Florence était artiste. Oh, il était joaillier, graveur en médailles, sculpteur, fondeur en bronze et peintre. C'était un Florentin. Il n'a fait que cela au monde, darling. Le reste est d'une main moins délicate, d'un travail moins parfait. Comment voulez-vous que cette colline violette de San Miniato, d'un relief si pur, soit de l'auteur du Mont Blanc? Ce n'est pas possible. Ce paysage, darling, a la beauté d'une médaille ancienne et d'une peinture précieuse. Il est une parfaite et mesurée œuvre d'art. Et voici une autre chose que je ne sais pas dire, que je ne sais pas comprendre et qui est une chose véritable. Dans ce pays, je me sens, et vous vous sentirez comme moi, darling, à demi-vivante et à demi-morte, dans un état très noble, très triste et très doux. Regardez, regardez beaucoup. Vous découvrirez la mélancolie de ces collines qui entourent Florence, et vous verrez une tristesse délicieuse monter de la terre des morts. Le soleil penchait à l'horizon. Les pointes des cimes s'éteignaient l'une après l'autre, tandis que les nuées s'enflammaient dans le ciel. Madame Marmet éternua. Miss Bell fit apporter les châles et avertit les Françaises que les soirées étaient fraîches et malignes. Et tout à coup, « Darling, vous connaissez Monsieur Jacques de Chartres ? Eh bien, il m'a écrit qu'il serait à Florence la semaine prochaine. Je suis contente que Monsieur Jacques de Chartres se rencontre avec vous dans notre ville. Il vous accompagnera aux églises et aux musées, et il sera un bon guide. Il comprend les belles choses parce qu'il les aime. Et il a un exquis talent de sculpteur. Ses figures et ses médaillons sont encore plus admirés en Angleterre qu'en France. Oh, je suis si contente que M. Jacques de Chartres se rencontre à Florence avec vous, darling. » Chapitre 9. Le lendemain, comme au sortir de Sainte-Marie-Nouvelle, elle traversait la place où sont plantées, à l'imitation des cirques antiques, deux bornes de marbre, Madame Marmet dit à la comtesse Martin « Oh, je crois que voici M. Choulette. » Assis dans les chopes d'un cordonnier, sa pipe à la main, Choulette faisait des gestes rythmiques et semblait réciter des vers. Le savetier florentin, tout en poussant la reine, écoutait avec un bon sourire. C'était un petit homme chauve qui représentait un des types familiers à la peinture flamande. Sur la table, parmi les formes de bois, les clous, les morceaux de cuir et les boules de poids, un pied de basilic étalait sa tête verte et ronde. Un moineau, à qui manquait une patte, qu'on avait remplacé par un bout d'allumette, sautillait gaiement sur l'épaule et sur la tête du vieillard. Madame Martin, égayée à cette vue, appela du seuil Choulette, qui prononçait très doucement des paroles chartantes, et elle lui demanda pourquoi il n'était pas allé avec elle visiter la chapelle des Espagnols. Il se leva et répondit, « Madame, vous vous occupez de vaines images, mais moi, je demeure dans la vie et dans la vérité. » Il pressa la main du savetier et suivit les deux dames. « Dans notre Saint-Marie-Nouvelle, leur dit-il, j'ai vu ce vieillard qui, courbé sur son ouvrage et serrant la forme entre ses genoux comme dans un étau, cousait des chaussures grossières. J'ai senti qu'il était simple et bon, et je lui ai dit en italien, « Mon père, voulez-vous boire avec moi un verre de vin de Chianti ?» Il a bien voulu, alors il est allé chercher un flacon et des verres, et j'ai gardé sa demeure. Et Choulette montra deux verres et une bouteille posée sur le poêle. Eh bien, quand il est revenu, nous avons bu ensemble. Je lui ai dit des choses obscures et bonnes, et je l'ai charmé par la douceur des sons. Je retournerai dans son échoppe. J'apprendrai de lui à faire des souliers et à vivre sans désir. Après quoi, je n'aurai plus de tristesse, car seul le désir et l'oisiveté nous rendent tristes. » La comtesse Martin sourit. « Monsieur Choulette, je désire rien, et pourtant je ne suis pas gaie. Est-ce qu'il faut aussi que je fasse des souliers ?» Choulette répondit gravement. « Non, il n'est pas temps encore. » Parvenus au jardin des Orichellari, Madame Marnay se laissa tomber sur un banc. Elle avait examiné à Sainte-Marie-Nouvelle les fresques tranquilles de Ghirlandajo, les stalles du chœur, la Vierge de Cimabue, les peintures du cloître. Elle l'avait fait avec soin pour la mémoire de son mari, qui avait beaucoup aimé, disait-on, l'art italien. Elle était fatiguée. Choulette s'assit près d'elle et lui dit « Madame, pourriez-vous me dire s'il est vrai que le pape fait faire ses robes chez Worth ?» Madame Marnay ne le croyait pas. Pourtant, Choulette l'avait entendu dire dans les cafés. Madame Martin était surprise que, catholique et socialiste, Choulette parlât avec si peu de respect d'un pape ami de la République. Mais il n'aimait guère Léon XIII. « La sagesse des princes est courte, dit-il. Le salut de l'Église viendra de la République italienne, ainsi que le croit et le veut Léon XIII, mais l'Église ne sera pas sauvée de la manière que le pense ce vieux Machiavel. La Révolution fera perdre au pape son dernier inique avec le reste de son patrimoine. Et ce sera le salut. Le pape dépouillé et pauvre deviendra puissant. Il agitera le monde. On reverra Pierre, Lin, Clay, Anaclet et Clément, les humbles, les ignorants, les saints des premiers jours, qui changèrent la face de la terre. Si demain, par impossible, dans la chair de Pierre, s'asseyait un véritable évêque, un chrétien véritable, j'irai le trouver, je lui dirai. Ne soyez pas le vieillard enseveli vivant dans une tombe d'or. Laissez vos camériers, vos gardes nobles et vos cardinaux. Quittez votre cour et les simulacres de la puissance. Venez à mon bras, mendiez votre pain par les nations. Couvert de haillons, pauvres, malades, mourants, allez le long des routes, montrant en vous l'image de Jésus. Dites, je mendie mon pain pour la condamnation des riches. Entrez dans les villes et criez de porte en porte avec une stupidité sublime. Soyez humbles, soyez doux, soyez pauvres. Annoncez dans les cités noires, dans les bouges et dans les casernes, la paix et la charité. On vous méprisera, on vous jettera des pierres. Les gendarmes vous traîneront en prison. Vous serez aux humbles comme aux puissants, aux pauvres comme aux riches, un sujet de risée, un objet de dégoût et de pitié. Vos prêtres vous déposeront, ils élèveront contre vous un antipape. Tous diront que vous êtes fou, et il faut qu'ils disent vrai. Il faut que vous soyez un fou. Les fous ont sauvé le monde. Les hommes vous donneront la couronne d'épines et le sceptre de roseau, et ils vous cracheront au visage. Et c'est à ce signe que vous paraîtrez Christ et vrai roi. Et c'est par de tels moyens que vous établirez le socialisme chrétien, qui est le royaume de Dieu sur la terre. » Ayant parlé de la sorte, Choulette alluma une de ces longs et tortueux cigares italiens traversés par une paille. Il en tira quelques bouffées d'une vapeur infecte, puis il reprit tranquillement « Et ce serait pratique. On peut me refuser tout, excepté une vue très nette des situations. Ah, Madame Marmet, vous ne saurez jamais à quel point il est vrai que les grandes œuvres de ce monde ont toujours été accomplies par des fous. Croyez-vous, Madame Martin, que si saint François d'Assise avait été raisonnable, il aurait versé sur la terre, pour le rafraîchissement des peuples, les eaux vives de la charité et tous les parfums de l'amour ?»« Je ne sais, répondit Madame Martin, mais les gens raisonnables m'ont toujours paru bien ennuyeux. Je puis le dire à vous, monsieur Choulette. » Ils retournèrent à Fiesole et par le tramway à vapeur qui monte en soufflant la colline. La pluie tomba. Madame Marmet s'endormit et Choulette se lamenta. Tous ses maux revinrent l'assaillir à la fois. L'humidité de l'air lui donnait des douleurs aux genoux et ne pouvait plier la jambe. Son sac de voyage, égaré la veille dans le trajet de la gare à Fiesole, ne se retrouvait pas. Et c'était un désastre irréparable. Une revue parisienne venait de publier un de ses poèmes avec des fautes d'impression, coquilles aussi larges que des ébénitiers, vastes comme la conque d'Aphrodite. Il accusa les hommes et les choses de lui être hostiles et funestes. Il fut puéril, absurde, odieux. Madame Martin, qu'attristait Choulette et la pluie, croyait que la bonté ne finirait pas. Quand elle rentra à la maison des cloches, dans le salon, Miss Bell, d'une écriture formée d'après l'italique des Aldes, copiait avec de l'encre d'or sur une feuille de parchemin les vers qu'elle avait trouvés dans la nuit. À la venue de son amie, elle leva sa petite tête laide, éclairée et brûlée par des yeux splendides. « Darling, je vous présente le prince Albertinelli. » Le prince étalait contre le poil sa beauté de jeune dieu que fortifiait une barbe drue et noire. Il salua. « Madame ferait aimer la France si ce sentiment n'était déjà dans nos cœurs. » La comtesse et Choulette prièrent Miss Bell de leur lire les vers qu'elle écrivait. Elle s'excusa, étrangère, de faire entendre ces incertaines cadences au poète français qu'elle goûtait le mieux après François Villon. Puis, de sa jolie voix sifflante d'oiseau, elle récita « L'or au pied des rochers où la source penchante, Paris à la naïade et qui rit et qui chante, agite ses bras frais et vole vers l'Arnaud. Deux beaux enfants avaient échangé leur anneau, et le bonheur d'aimer coulait dans leur poitrine, comme l'eau du torrent au versant des collines. Elle avait nom Gemma, mais l'amant de Gemma, nul entre les conteurs jamais ne le nomma. Le jour, ces innocents, la bouche sur la bouche, mêlaient leur jeune corps dans la sauvage couche de thym qui visitait la chèvre. Et vers le soir, à l'heure où l'artisan fatigué va s'asseoir, sous les tilleuls surpris, il regagnait la ville. Nul n'avait souci d'eux dans la foule servile, et souvent ils pleuraient, se sentant trop heureux, ils comprirent que vivre était mauvais pour eux. Or, dans cette prairie où, déchirés de joie, ils étaient l'orme vert et la vigne qui ploie, et tordaient sous le ciel leurs rameaux gémissants, s'élevait une plante étrange aux fleurs de sang qui dardait son feuillage en pâle fer de lance. Les bergers la nommaient la plante du silence. Et Gemma le savait que le sommeil divin, l'éternel repos et le rêve sans fin viendraient de cette plante à qui l'aurait mordu. Un jour, qu'elle riait sous l'arbuste étendu, elle en mit une feuille aux lèvres de l'ami. Quand il fut dans la joie jamais endormi, elle mordit aussi la feuille bien-aimée au pied de son amant et le tomba pâmé. Les colombes au soir s'y revinrent gémir et rien plus ne troubla leur amoureux dormir. « Cela est bien joli, » dit Choulette, « et d'une Italie doucement voilée des brumes de Tulé. » « Oui, » reprit la comtesse Martin, « cela est joli, mais... « Mais pourquoi, chère Viviane, vos deux beaux innocents voulaient-ils mourir ?»« Oh, darling, parce qu'ils se sentaient aussi heureux que possible et qu'ils ne désiraient plus rien. C'était désespérant, darling, désespérant. Comment ne comprenez-vous pas cela ? Et vous croyez que si nous vivons, c'est que nous espérons encore ? Oh oui, darling, nous vivons dans l'attente de ce que demain... Demain, roi du pays des fées, apportera dans son manteau noir et bleu, semé de fleurs d'étoiles, de larmes. Oh, bright king, tomorrow!